Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, bah c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, ben c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque. Sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 219. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Il y a 5 ans, j'ai lancé le podcast du marketing et il y a 4 ans, j'ai formé la première promotion de stratégie indépendante, mon programme dédié aux indépendants pour construire leur stratégie de communication. Depuis, j'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs avec cette formation et l'immense majorité d'entre eux s'y est inscrite après avoir suivi l'une de mes masterclass, c'est-à-dire un webinaire. Le webinaire, c'est un outil de vente ultra puissant. En fait, plus qu'un outil, organiser un webinaire, c'est mettre en place tout un tunnel de vente. Alors, je vais être claire tout de suite, je ne recommande pas cette stratégie pour quelqu'un qui débute en marketing. C'est une stratégie un peu avancée qui nécessite de coordonner beaucoup d'éléments. Mais c'est tout à fait faisable si vous avez déjà mis en place les bases de votre stratégie de communication. Typiquement, si vous avez suivi Stratégie Indépendante, vous êtes prêt pour l'étape du webinaire. Tout ça pour vous dire que le webinaire est une stratégie que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, j'en ai parlé récemment avec Patrice Barbezier qui l'utilise un peu différemment puisqu'il ne s'en sert pas directement pour vendre. Mais aujourd'hui, eh bien, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous évitez les pièges qui vous attendent si vous voulez intégrer un webinaire dans votre tunnel de vente. Et pour ça, je suis allée voir un spécialiste de la vente par webinaire, Kevin Pem. Kevin accompagne ses clients dans la construction de l'ensemble du funnel, et des erreurs, il en a vu. Je lui ai demandé de déminer le chemin pour nous, histoire qu'on ne se prenne pas les pieds dans le tapis. Je vous propose d'accueillir tout de suite Kevin Pem. Salut Kevin, bienvenue sur le podcast du marketing.
Hello Estelle, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très content d'être là.
Ouais, bah moi aussi, je suis super contente que tu sois là avec nous pour parler d'un sujet que j'adore, dont j'ai finalement relativement peu parlé encore sur le podcast du marketing. J'en ai parlé assez récemment, il y a quelques épisodes, avec Patrice Barbezier qui était venu nous donner ses stratégies sur le thème dont on va parler aujourd'hui, c'est le thème des masterclass. Toi, tu es un expert, Kevin, des masterclass, donc je suis ultra contente de pouvoir discuter avec toi pour savoir eh ben, comment est-ce qu'on peut faire pour vendre grâce à des masterclass et comment éviter de faire des bêtises, des erreurs. Tu vas tout nous raconter. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Kevin, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ?
Alors, je suis consultant en marketing digital. Je me spécialise sur les tunnels de vente et plus précisément sur ce qu'on appelle les webinar funnels, c'est-à-dire les tunnels de vente qui utilisent les webinars comme levier pour vendre une offre. Et je m'adresse particulièrement aux profils type coach en ligne, formateur en ligne et tous les professionnels du monde de la formation.
Ah, génial. Bah, on est en plein dedans. Moi, je connais très bien tous ces sujets-là de la masterclass parce que c'est typiquement le funnel, hein, le tunnel de vente que j'utilise pour vendre ma formation stratégie indépendante. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sauraient pas bien ce que c'est qu'une masterclass, un webinaire, c'est très simple. Hein, c'est une espèce de salle virtuelle, un peu comme un Zoom. Ça pourrait être Zoom d'ailleurs, pourquoi pas, mais il y a plein d'outils. Peut-être que tu nous en parleras, Kevin. Mais c'est en gros une salle virtuelle et une personne vient vous présenter quelque chose, souvent vous apprendre des choses, ou en tout cas vous parler d'un sujet, et puis on va utiliser ce moment où on a des personnes comme ça qui nous écoutent pour leur proposer d'aller plus loin, de creuser le sujet plus en détail via une offre qu'on va proposer. Donc ça, c'est un tunnel de vente, un chemin de vente, si on peut dire ça simplement, qui est très utilisé effectivement, notamment par les infopreneurs, qui fonctionne très très bien, mais finalement qui fait souvent un petit peu peur. Et à mon avis, c'est une erreur, parce que je trouve que c'est plutôt relativement facile à mettre en place, mais c'est un système qui fonctionne très très bien. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, moi ce que j'aimerais voir, tu vois, aujourd'hui avec toi, c'est comment est-ce que je fais pour pas tomber dans les erreurs? Parce que peut-être qu'on peut se dire en deux secondes comment est-ce qu'on organise une masterclass, un webinaire, mais assez rapidement, j'aimerais bien que tu me dises quels sont les gros écueils sur lesquels il ne faut pas tomber. Si demain, en deux minutes, Kevin, l'exercice n'est pas forcément simple, mais si demain je te demandais, mais voilà, je n'ai jamais fait de webinaire, je veux en organiser un, de masterclass, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser une masterclass? Est-ce que techniquement, c'est compliqué?
Techniquement, c'est pas compliqué. Si je devais le résumer en une phrase, c'est organiser un événement où tu vas inviter ton audience, tes prospects, à découvrir une problématique particulière et une solution que tu vas proposer. Et comme tu vas partager ton expertise pendant cet événement, tu vas leur proposer à la fin, pour aller plus loin, de travailler avec toi. Donc tu vas leur présenter une offre irrésistible, avec quelques arguments, quelques principes de persuasion dont on parlera sûrement juste après. Mais grosso modo, c'est juste ça, un webinaire.
Ouais, donc t'as besoin quoi techniquement? T'as besoin d'un logiciel qui te propose des webinaires. Typiquement, ça peut être Zoom, ça peut être Demio. Moi, j'utilise Demio. Enfin, il y a plusieurs logiciels comme ça qui te proposent ça. Et puis, tu as besoin d'inviter des gens à venir assister à ton webinaire. Après, tu as besoin de parler, de raconter les trucs que tu as racontés. Techniquement, c'est pas plus complexe que ça, finalement.
C'est ça, c'est pas plus complexe que ça. La complexité, elle va plutôt résider dans le marketing. Et au-delà des outils qu'on va utiliser pour faire le webinaire, pour moi, il y a des prérequis quand même. Comme on parle d'audience depuis tout à l'heure, il faut quand même avoir un minimum d'audience à inviter. Si vous n'avez aucune visibilité, aucune présence sur le web, ça va être difficile de faire un webinaire en partant de zéro. Ou alors, ça va vous coûter assez cher parce que vous allez investir sur la pub.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que cette stratégie du webinaire, c'est pas une stratégie, il y a rien de négatif là-dedans, mais c'est pas une stratégie de débutant. C'est déjà une stratégie pour des gens qui ont un niveau déjà relativement avancé en marketing, parce qu'il faut avoir commencé à construire son audience, en fait, c'est ça.
C'est ça, exactement. Donc, au-delà de l'audience, il faut déjà aussi avoir une offre qui est validée par le marché. Et pour moi, la meilleure validation, c'est d'avoir des ventes et pas seulement des amis et ou des prospects qui vous disent « Ah, ben, c'est bien cette offre, ça a l'air intéressant, mais je reviens vers toi plus tard. » Ça, c'est pas une validation. La seule validation, c'est quelqu'un qui sort sa carte bleue et qui paye l'offre. Donc, si on n'a pas un minimum de validation, c'est-à-dire un minimum de ventes, ça sert à rien de faire des webinars. Il y a des techniques, d'autres stratégies que vous pouvez utiliser pour aller chercher vos premières ventes. Donc pour moi, les deux prérequis non négociables, c'est avoir une audience et avoir une offre qui se vend déjà, parce que le webinar va venir accélérer tout ça.
Ah, trop bien, c'est ça en fait, c'est un j'aime beaucoup ce mot, c'est un accélérateur de vente, mais effectivement, il faut que tu aies déjà des choses mises en place, parce que sinon tu vas quand même te fatiguer un petit peu pour rien à construire toute la communication autour de la masterclass. Est-ce que c'est pas notre première erreur grande classique, c'est quelque chose autour de la communication? Comment est-ce qu'on fait pour communiquer, ou est-ce qu'on communique toujours suffisamment pour notre masterclass?
Est-ce que tu pourrais répéter la question, s'il te plaît?
je cherche à comprendre, en fait, quelles vont être nos erreurs, les erreurs communes qu'on va retrouver sur une masterclass. Est-ce qu'une première grosse erreur, c'est de pas assez communiquer, en fait, sur la masterclass, de se dire, comme on se dit souvent, bah c'est bon, j'en ai parlé, je l'ai annoncé, ça suffit, les gens qui sont intéressés viendront. Est-ce que ça, c'est une erreur, ou est-ce que ça suffit de juste dire à son audience, tu disais, il faut avoir une audience, est-ce que ça suffit de dire à son audience, bah voilà, j'ai une masterclass dans une semaine, venez participer, voici le lien. Est-ce que ça suffit?
Alors, ça ne suffit absolument pas, parce que c'est une stratégie qui devient de plus en plus populaire, qu'il est déjà chez les infopreneurs depuis très longtemps, mais qui commence à se démocratiser de plus en plus. Donc, pour sortir votre épingle du jeu et vous distinguer, il va falloir commencer à parler aux réelles problématiques de votre audience. Quelles sont ses douleurs, quels sont ses désirs, et comment est-ce que vous venez connecter tout ça au sujet de votre masterclass. Et juste en parler une seule fois, c'est-à-dire faire une grosse annonce, c'est-à-dire juste un post ou juste un email, ou les deux, ça ne suffira pas. Pour moi, il faut au minimum 7 à 10 jours de communication intensive pour promouvoir la masterclass.
Et c'est quoi une communication intensive ? C'est quoi ? C'est un post sur les réseaux sociaux par jour ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu appelles intensif ?
Dans l'idéal, aujourd'hui, je dirais un post par jour pendant 7 jours et au moins 5 emails à sa liste mail.
Ah, 5 emails ? Mais qu'est-ce que tu leur racontes alors ? 5 emails, ça pas... Parce que l'idée, c'est quand même pas de leur raconter tout le temps la même chose. Et puis, moi, la peur que j'aurais, tu vois, et je pense que c'est la peur de beaucoup de gens sur les emails, c'est si je leur raconte tout le temps la même chose, ils vont en avoir marre et puis ils vont se désinscrire, non ?
Ouais, c'est une bonne remarque. En fait, il faut savoir que quand on envoie des emails, on peut très bien varier les formats. On va pas parler du webinar ou de la masterclass, c'est le même terme. Hein, depuis tout à l'heure, on jongle entre les deux mots. On va pas commencer par parler de la masterclass. On va d'abord parler des problèmes de l'audience. Et les problèmes de votre prospect, de votre client idéal, de votre avatar, votre persona, c'est la même chose pour moi. Il y en a plusieurs, en fait. Vous avez sa grosse problématique, par exemple investir dans l'immobilier. Mais dans cette problématique, il va y avoir plein de sous-problématiques. Avant d'investir dans l'immobilier, il faut que je sache, est-ce que je peux prendre un prêt ? Où est-ce que j'investis ? Je sais pas, j'ai peut-être une peur, c'est que les locataires me détruisent ma location. Toutes ces peurs-là, tous ces blocages, vous pouvez en faire un email, un post. Et du coup, vous allez à chaque fois, par exemple, utiliser un modèle de copywriting assez connu, qui est le PAS, donc problème. Donc je vais évoquer un problème de mon audience, agiter, donc je vais agiter ce problème, qu'est-ce qui va se passer si je ne travaille pas sur ce problème ou si je ne le règle pas, et solution. Et là, dans la solution, on va positionner le webinar comme une vraie solution.
Ok, donc super simple effectivement, et alors j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut commencer, tu sais moi j'ai une marotte, je parle de ça quasiment à chaque épisode, ma marotte c'est avant de faire quoi que ce soit en marketing, il faut comprendre, connaître son persona, son client idéal, la personne à qui ben, on va vouloir vendre ce qu'on a à vendre, et donc ça passe par travailler ce persona parce que on a besoin de voir où est sa douleur, moi j'appelle ça le caillou dans la chaussure, le truc qui l'embête finalement, pour pouvoir aller eh bien, en parler, attirer son attention en parlant, et puis lui proposer un début de solution pour lui donner envie finalement de venir à cette masterclass. Et c'est ce que tu dis, et j'aime beaucoup ce que tu dis, de dire, bah oui, mais si j'envoie par exemple 5 emails, je vais pas raconter la même chose sur chacun des 5 emails, je vais parler de la douleur, mais en fait la douleur, tu as toujours des sous-douleurs. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce qu'effectivement, on se dit toujours, oui, il y a une problématique, je réponds à une problématique, non. Derrière une problématique, on peut toujours aller creuser, il y a toujours des sous-problématiques, des raisons encore spécifiques peut-être à chacun ou qui touchent à différents aspects, et il faut aller travailler ces problématiques-là, c'est ça qui va vraiment faire actionner et faire passer les gens à l'action.
C'est ça, exactement. Et il faut savoir que quand vous avez une problématique, vous avez les sous-problématiques, mais vous pouvez aussi prendre différents angles pour en parler. Par exemple, vous allez prendre les erreurs. C'est ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui, par exemple, sur ce podcast. Vous pouvez prendre les mythes par rapport à cette problématique. Vous pouvez faire une étude de cas par rapport à un client que vous avez accompagné et qui a eu des résultats. Vous pouvez raconter votre propre histoire et faire du storytelling si vous avez vous-même vécu une transformation, c'est-à-dire, bah, je prenais l'exemple de l'immobilier tout à l'heure, si vous avez vous-même investi dans l'immobilier et dépassé tous les blocages de votre client idéal, vous pouvez le raconter. Et ainsi de suite, ça peut être un témoignage, etc. Donc tous ces angles-là peuvent servir à promouvoir la même problématique, mais d'une autre façon.
Ouais. Donc, effectivement, un, Il ne faut pas avoir peur de communiquer et de répéter, de communiquer plusieurs fois. Tu disais sur une semaine, 10 jours, bah c'est un post par jour, peut-être 5 à 7 emails, pourquoi pas. Et il faut le prendre selon différents angles. On va pouvoir raconter plein de choses finalement. J'aime beaucoup ce que tu dis, il y a les erreurs, les mythes, les études de cas, le storytelling. En fait, il y a plein de façons de raconter les choses sans redire à chaque fois la même chose. Parce qu'évidemment, si on répète, si on rabâche tout le temps la même chose, on va finir par fatiguer les gens. Ils ne vont plus lire, ils ne vont plus y faire attention. Donc, il va falloir trouver différents angles. Mais finalement, quand on le prend comme ça, c'est assez facile de trouver ces différents angles. Donc, première grosse erreur que tu nous dis sur comment faire pour ce qui peut nous empêcher de vendre par des masterclass, première grosse erreur, c'est de ne pas assez communiquer sur la masterclass, c'est-à-dire pour inviter les gens à venir à la masterclass. Quelle serait notre deuxième grosse erreur que tu peux voir avec tes clients, toi ?
La deuxième grosse erreur va être intimement liée à la première, parce qu'en fait, une fois qu'on a communiqué, une fois qu'on a des inscrits à la masterclass, ça devient assez facile pour mes clients, du coup, d'avoir cette capacité à délivrer de la valeur, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'un webinar, une masterclass, c'est un outil de vente. On est là pour vendre et générer du chiffre d'affaires quand même. C'est l'objectif premier. Et la peur qui apparaît souvent, c'est la peur de paraître insistant, de passer pour un vendeur de tapis. Et du coup, on va pas assez insister, on va pas assez vendre, et on n'atteint pas son objectif de vente. Donc, c'est ce qui remonte le plus, et je le passerai même en numéro 1.
Ouais, et je comprends parce que, pour le coup, tu vois, c'est vraiment quelque chose, moi, que je vois. Évidemment, je regarde les autres personnes hein, qui font des masterclass. C'est toujours le moment compliqué, le moment le plus compliqué. Alors, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. C'est le moment où on passe, parce qu'en fait, une masterclass, qu'est-ce que c'est, un webinaire ? Tu as une première partie où c'est de la formation, si on est sur de la formation, ou de l'information, peu importe. Hein. Une première partie comme ça de description, où on donne de la valeur, et on passe à une deuxième partie où on vient vendre. Et le moment où on passe de la description à la vente, bien souvent, peut-être parce qu'on est français, alors je ne sais pas si c'est que les Français, mais en tout cas, il y a souvent une réticence à passer à la vente, et bien souvent, on sent une espèce de blocage, de crispation chez la personne qui présente. Et ça, pour moi, c'est un vrai gros bloqueur. Si je vois, je me mets à la place hein, du client, si je vois la personne qui, au moment où elle a présenté son offre, n'est pas à l'aise, je me dis « Oh, attends, il y a un truc qui ne va pas. » Si la personne n'est pas à l'aise, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et évidemment, ça met le doute. Dès lors qu'on instille le doute, ça devient quand même beaucoup plus compliqué de passer à l'achat. Est-ce que tu es d'accord que ce moment-là, ce moment de passage à la vente, c'est un peu le moment charnière dans la masterclass ?
Je suis à 2000% d'accord, je le vois chez tous mes clients. Ce moment où tu passes du partage de contenu, où du coup ils sont à 1000% à l'aise parce que c'est leur zone de génie, au moment où ils doivent transitionner vers la partie vente du webinar, et où du coup ils perdent la face un petit peu, ils vont commencer peut-être à bégayer, à être moins à l'aise, le discours est moins fluide, ça se voit tout de suite et je suis d'accord que ça peut jouer du coup dans l'expérience du client, dans son parcours d'achat.
Ouais, donc en fait c'est vraiment le truc, moi c'est ce que, en tout cas c'est comme ça que je le travaille, c'est s'il y a un slide à bosser, c'est ce slide-là. C'est d'être sûr, d'être super à l'aise et de le rebosser. Moi, j'aime pas la vente. Je fais partie de ces gens qui font du digital pour pas avoir à vendre, très clairement. Donc, c'est sûr que c'est pas forcément le moment où on est... en tout cas, ça ne m'est pas naturel, on va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment le moment à travailler de façon à être à l'aise. Et ce que je me dis, alors, je sais pas si c'est peut-être un conseil que tu donnes à tes clients et si tu en as d'autres, mais moi, ce que je me dis, c'est... mais en fait, il y a zéro honte à vendre. Enfin, on gagne tous notre vie, puis c'est quand même bien heureux qu'on gagne notre vie. Et au contraire, et moi, c'est ce que j'aime avec ce système de masterclass et d'inbound marketing au sens large hein, du terme, c'est qu'au contraire, je me sens complètement légitime à proposer une offre. Un, parce que je force personne, d'une, et de deux, parce que je viens de donner gratuitement plein de valeur. Donc, les gens qui sont là et qui n'ont pas envie d'acheter, parce que évidemment que tout le monde, on va se le dire, hein, tout le monde ne va pas acheter, hein, c'est complètement normal sur une masterclass, évidemment tout le monde ne va pas devenir client, mais les gens qui n'ont pas envie de devenir client, que ça n'intéresserait pas,
Ben, ils peuvent passer leur chemin. Et puis ceux qui sont intéressés, ben, tant mieux, on leur a déjà donné de la valeur. Ils peuvent aller plus loin. Donc il n'y a vraiment pas de honte, au contraire. Moi, je pense qu'il faut pouvoir se le dire. C'est vraiment un outil où on est légitime à vendre parce qu'on a donné de la valeur. Est-ce que t'es OK avec ça? Est-ce que t'as peut-être d'autres façons de voir les choses?
Ouais, je suis 100% OK avec ça. C'est ce que je répète aussi à mes clients. Si vous avez déjà une audience existante, que vous allez éduquer toute l'année, à qui vous partagez de la valeur toute l'année, c'est OK de vendre une fois par mois, une fois tous les 3 mois dans l'année. C'est OK parce que du coup, le reste du temps, vous partagez de la valeur, donc vous activez ce qu'on appelle le principe de réciprocité, vous donnez quelque chose toute l'année, et en échange, c'est normal de demander à ce moment-là, au moment du webinar. Et il y a un autre conseil que je peux vous donner qui vient d'un ancien client qui m'a dit pour devenir à l'aise sur ce sujet-là et pour que j'ai plus ce problème de transition entre le moment où je suis en train de partager de la valeur et le moment où je suis en train de vendre, c'est que je suis devenu convaincu à 2000% que je suis en train de rendre service à mes clients, que l'offre que je suis en train de leur vendre, c'est la meilleure chose qui peut leur arriver à ce moment-là.
Ah ouais, mais moi j'adore cette idée parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on bosse bien. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on propose, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est pas juste vendre pour vendre. Et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est le cas. Évidemment que le prérequis, c'est on aime ce qu'on fait. Deux, on veut aider nos clients. Et c'est encore une fois cette idée que si le client est au cœur de notre stratégie de façon authentique vraiment, ça peut que marcher. Parce que tout simplement, on est là pour eux, on est là pour les aider, et je suis d'accord avec toi. Dès lors que tu es convaincu que ce que tu proposes, c'est pas uniquement pour remplir ton portefeuille, mais c'est aussi bien sûr parce que ça va réellement les aider, leur apporter quelque chose, etc. Bah, effectivement, il n'y a aucune honte à vendre, parce que au contraire, tu vas leur apporter plus de valeur grâce à ce produit. Donc il faut y aller, et je pense que c'est véritablement une notion de mindset qu'il faut changer. C'est peut-être un peu français, les Américains sont meilleurs que nous là-dessus certainement. Changer de mindset, on a le droit de vendre, on a le droit de faire du business. Je mettrai un petit bémol, si tu permets, Kevin, moi, là-dessus, parce que je parle des Américains. Moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait dans le marketing américain. Les masterclass, c'est quand même un peu eux qui ont inventé ça. Là où je mets un tout petit bémol, c'est les Américains ont une façon de vendre qui est beaucoup plus appuyée que nous, Français. Y a vraiment une histoire de nuance linguistique ou culturelle, je sais pas. Quand ils vont vendre, ils vont répéter, te prendre par la main, t'expliquer comment aller sur le site page par page, comment faire, etc. Moi, je l'ai fait sur mes toutes premières masterclass, j'avais déjà eu le sentiment d'atténuer, mais trop vendre... Il y a aussi un moment donné où les gens en face se disent « Non mais attends, c'est bon, c'est quoi ce vendeur de tapis ?» Ça me saoule aussi. Il y a quand même une espèce de frontière à trouver, je trouve, pour ne pas surjouer la chose et finalement perdre en crédibilité. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin ?
Je suis d'accord et pas d'accord. Et ça va être intéressant. Parce que justement, au moment où vous faites le webinar, vous êtes aussi là pour donner une raison à votre prospect d'agir. Et il faut qu'il agisse maintenant. Il faut savoir que l'être humain, il se trouvera toujours une raison de ne pas agir maintenant. Si vous ne donnez pas une raison d'acheter votre offre aujourd'hui pendant ce live, il va attendre demain. Et s'il attend demain, il attendra peut-être 7 jours, voire plus. Donc souvent, quand vous allez faire un webinar, il faut packager votre offre pour ce webinar, pour récompenser des personnes qui sont là, présentes avec vous. Donc vous pouvez par exemple offrir quelque chose en plus, donc un bonus. Ce qui se fait beaucoup, mais je suis pas tout le temps fan, c'est une réduction sur le prix. Je suis pas fan parce que ça peut faire baisser la valeur perçue de votre offre. Ou du coup tout ça, mais sur une période donnée, par exemple pendant 7 jours. Et ça se voit, c'est pas seulement utilisé dans le monde de la formation, c'est aussi très utilisé dans le monde des SaaS. Par exemple, un HubSpot, un Lamelist ou quoi, peut vous faire une réduction pendant 7 jours ici. Donc c'est OK, parce que si votre prospect est là aujourd'hui pendant le webinar live, c'est qu'il a un réel besoin, si vous avez communiqué de la bonne façon, et votre offre répond à ce besoin-là. Il a juste besoin du petit coup de pouce pour l'aider à agir.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Notre cerveau, il est fait pour ne pas prendre cette décision parce qu'on risque de se planter si on prend une. Si tu prends pas de décision, tu te plantes pas. T'avances pas trop dans la vie, mais tu te plantes pas. Et le cerveau, ce qu'il aime pas, c'est se planter. Donc c'est vrai qu'il a toujours tendance à se dire, attends, est-ce qu'il y a pas une arnaque? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce qu'on va pas se tromper de moi? Il y a plein de raisons pour ne pas prendre cette décision, décision d'achat et d'autres décisions d'ailleurs, ça vaut pour toutes les décisions dans la vie. Et effectivement, moi ce que je dis toujours, c'est que je cherche pas à vendre, à forcer la vente ou à voilà ou même à vendre au sens voilà bête et méchant du terme. Je cherche à donner toutes les clés à mon audience, à la personne qui est en face de moi, pour qu'elle puisse prendre la meilleure décision, mais que cette décision elle la prenne. Qu'elle prenne la décision de travailler avec moi ou de ne pas travailler avec moi, mais dans les deux cas, c'est prendre une décision. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment leur donner le moyen de prendre une décision. Et parfois, eh ben, ça peut être de timer les choses en disant, ben, moi, souvent, je propose un bonus juste pendant le webinaire. Si tu achètes pendant le webinaire, c'est-à-dire là, maintenant, il te reste 20 minutes, si tu achètes pendant le webinaire, et là, souvent, c'est un bonus qui a une vraie grosse valeur. Typiquement, je propose un coaching one-one avec moi. Ça, je le fais très, très peu parce que ben, je n'ai pas le temps, évidemment, de donner un coaching à 200 personnes. Ça ne marcherait pas. Donc, un bonus qui aurait vraiment une grosse valeur pour prendre la décision maintenant, si tu es sûr d'y aller, vas-y. Si, en revanche, tu n'es pas sûr, bah, évidemment, on ne prend pas cette décision. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est donner la possibilité à la personne de prendre la décision, quelle que soit la décision. Et de le réfléchir comme ça, je trouve que ça libère aussi, parce qu'on n'est pas, encore une fois, à forcer qui que ce soit. L'idée, ce n'est pas de forcer la main aux gens, c'est de leur donner les moyens de prendre la bonne décision pour eux.
C'est ça.
Trop bien. Trop bien. Donc, on a deux premiers piliers. Le premier, pas assez communiquer. Le deuxième, pas assez vendre. Est-ce que tu aurais une troisième erreur qu'il faudrait éviter pour pouvoir vendre sur nos masterclass?
La troisième grosse erreur pour moi, et ça, je dirais que 100% de mes clients la commettent, c'est de trop enseigner pendant la masterclass. Quand je dis enseigner, c'est-à-dire partager toutes les solutions, parfois des solutions qui peuvent être dans l'offre payante. C'est-à-dire qu'on va dire comment faire ceci, comment faire cela. Et le problème avec ça, c'est que le prospect, il va avoir l'impression d'avoir toutes les clés en main pour agir de son côté, sauf qu'il ne le fera pas. Parce qu'encore une fois, il a peut-être d'autres blocages, des croyances, etc., où il va juste procrastiner, donc il ne le fera pas. Mais il a l'impression de pouvoir le faire. Donc, pourquoi acheter cette offre qui va me faire faire la même chose alors que je viens d'avoir les conseils gratuitement?
Ouais, c'est un peu toute la difficulté, et je suis d'accord avec toi, et probablement que je le fais d'ailleurs, tu vois, moi aussi. C'est un peu toute la difficulté de la masterclass, parce qu'il y a une part de toi qui dit, moi, je veux vraiment donner de la valeur, je veux montrer aux gens que je suis quelqu'un qui va pouvoir les aider réellement. Donc, bien sûr que tu veux donner de la valeur, et en même temps, je suis complètement d'accord avec toi. Si tu donnes trop de valeur, et ça veut même pas forcément dire toujours, dire concrètement aux gens comment faire et leur donner toutes les clés, mais leur donner l'impression, c'est ce que tu dis, leur donner l'impression qu'ils ont suffisamment d'infos pour le faire tout seul, bah, ils vont pas les payer, parce qu'ils ont bien raison. Après tout, s'ils se disent, bah, là, si j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, pourquoi est-ce que j'irai chercher une étape plus loin? Le problème, c'est que c'est faux. Et on le sait, si tu démarres tout seul comme ça, avec en tout cas un vernis, tu vas pas aller loin. Et la plupart du temps, tu vas même pas démarrer du tout. Donc, c'est pas une bonne chose pour nous parce qu'on vend pas, mais c'est pas une bonne chose non plus. Et je pense que c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas une bonne chose non plus pour la personne qui est en face, parce qu'elle croit qu'elle va pouvoir mettre en place les choses. Et la réalité, on le sait, c'est qu'elle le mettra pas en place, parce que c'est dur de mettre en place des choses, tout simplement. Et même les gens qui sont dans les formations, c'est un autre sujet, mais même les gens qui participent à la formation, tout le monde ne va pas réussir à mettre les choses en place, parce que bah, c'est dur de construire des projets de façon générale. Donc, c'est important, effectivement, de faire en sorte de ne pas de donner pour créer la confiance, mais de pas trop donner pour que les personnes aient envie réellement d'investir dans leur projet, quel qu'il soit, pour concrètement pouvoir aller plus loin. Ouais. Ok, quand on parle d'investir, moi je pense souvent outils. Comment est-ce que je fais pour construire mon webinaire? Est-ce que y a des choses où on va se tromper, ou parce que on va se dire les choses, quand on commence, souvent on se dit j'ai pas forcément envie d'investir ma paye dans le webinaire, donc on essaye d'aller un petit peu à l'économie. Est-ce que ça, c'est une erreur? Est-ce qu'il y a des prérequis, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut pas économiser pour pouvoir construire un bon webinaire?
Oui. Au début, on vous a parlé des prérequis, c'est d'avoir une audience, potentiellement une liste mail. Donc rien qu'avec ça, vous devriez déjà être équipé en termes de outils d'email marketing. Donc ça, j'ai pas besoin d'en parler. Par contre, l'outil phare sur lequel mes clients vont essayer de faire des économies ou se tromper, c'est l'outil pour faire la masterclass en elle-même. Souvent, quand je vais commencer avec un client, souvent il fait des masterclass sur Zoom et du coup l'expérience n'est pas top pour du coup les participants. Moi, je conseille quand même de choisir un outil dont c'est la zone de génie, c'est-à-dire Demio comme tu utilises toi-même, Webinar Jam, Livestorm, etc. Moi, je suis très très fan de Webinar Jam et ce que je dis aux clients pour les convaincre, c'est que on fait un webinar peut-être tous les 3 mois ou tous les 2 mois, donc ça va lui coûter $99 pour le mois, ensuite on coupe. En une vente, c'est largement rentabilisé. Il vaut mieux sécuriser l'expérience et ne pas avoir de bugs que risquer que ça se passe mal et faire zéro vente.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que plein de gens vont vers Zoom et je pense que c'est un peu la facilité parce qu'on connaît tous Zoom, on a déjà tous utilisé Zoom et on se dit mais attends en fait, en vrai c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose parce que il y a aussi, alors il y a plein de raisons techniques et je vais pas rentrer dans la technique, j'y connais rien, mais notamment le fait de la quantité. Alors on souhaite bien sûr à tout le monde d'avoir plein de gens qui viennent au webinaire et on peut être surpris. Moi, mon premier webinaire, je veux pas dire des bêtises, mais je crois qu'en live, j'avais 400 personnes, le tout premier. Donc je m'attendais pas du tout à avoir autant de gens. Je crois que j'avais 800 inscrits sur le premier webinaire, la première entité. Donc 400 personnes, 50% sont venues. Et on se dit, mais 400 personnes, en fait, on se rend pas compte, mais il faut pouvoir techniquement assurer une salle virtuelle où on va avoir 400 personnes. Et si on passe avec un logiciel dont c'est pas la zone de génie, comme tu dis, dont c'est pas le cœur de métier, bah, le risque, alors ça peut bien se passer, hein, ça peut, mais ça peut aussi mal se passer. Et moi, ça m'est arrivé, alors heureusement pas sur celle, la toute première, mais ça m'est arrivé juste après, il y avait un petit peu moins de monde, mais quand même, ça énerve, d'avoir un bug. Et là, tout freeze, tout s'arrête. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, on panique, on ne sait plus comment faire, on perd la moitié des gens, on redémarre, on n'est pas bien, on a sué la petite goutte qui tombe sur le front. Et donc, on n'est plus du tout en bonne disposition, nous, pour pouvoir enseigner et vendre. Et les personnes qui nous regardent sont plus du tout ni motivées, ni concentrées. Et du coup, voilà, on perd tout l'effet. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. S'il y a un truc sur lequel il ne faut pas lésiner, c'est ce logiciel-là. D'autant que tu le disais, c'est pas très cher en fait. Quand on parle de 100 € pour une fois, on vend un produit, quel que soit le produit, que ce soit un SaaS, une formation ou autre, ça y est, c'est rentabilisé assez rapidement effectivement.
C'est ça, exactement. Et si jamais on a plus de monde, ça nous coûtera plus cher. Mais si vous avez plus de monde, ça peut potentiellement dire plus de ventes. Donc c'est que des bonnes nouvelles. On parle aussi d'outils, mais j'aimerais aussi parler d'humains. Parce que souvent, je vais conseiller à mes clients, qui sont souvent des solopreneurs, qui sont souvent seuls dans leur équipe, sans assistant ou quoi, de faire appel quand même à un assistant ou une assistante pour les aider à gérer toute cette partie technique pendant la masterclass, pour qu'ils puissent se concentrer sur délivrer une bonne expérience, se concentrer sur leur discours, leur pitch, etc. Donc si jamais vous ne le faites pas, si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui peut vous assister pendant la masterclass, ça peut être bien de le faire, ou alors recruter une assistante pour le faire, parce que ça va vous soulager, ça va vous enlever une certaine charge mentale qui va vous permettre de vous concentrer à 100% sur votre webinar.
Alors, je suis 200% d'accord avec toi. Moi, tu vois, je suis très, très solo. C'est-à-dire que je travaille absolument seule. Je ne délègue rien. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais c'est ma façon de fonctionner. J'aime bien, je suis très, très indépendante. J'aime bien travailler seule. La seule personne avec qui je travaille, j'en profite pour lui faire un coucou, c'est Coralie Roy. Allez la voir si vous avez besoin de quelqu'un, d'un bras droit d'entrepreneur. Elle est absolument merveilleuse. Elle m'accompagne depuis mes toutes premières masterclass. Donc, ça fait des années maintenant qu'on travaille ensemble. Et ça change tout, le fait d'avoir quelqu'un qui est en back-office, qui peut parler aux personnes qui sont présentes, qui peut-être ont un problème. « Ah tiens, moi j'ai un problème de son, comment je fais ?» Hop, Coralie va pouvoir, dans le chat, aller lui donner un conseil. Ou tout simplement de reprendre toutes les questions. Moi, je réponds aux questions à la fin de ma masterclass. Je ne peux pas et enseigner et vendre et regarder dans le chat ce qui se passe, ce qui se raconte. Il se passe plein de choses dans le chat si tout va bien, et identifier toutes les questions. Ça me prendrait, enfin, il faudrait avoir un sur-cerveau pour réussir à tout faire en même temps. Et bien, mon sur-cerveau, c'est Coralie, c'est elle qui va prendre toutes les questions, qui me les envoie très bêtement par WhatsApp après, j'ai mon téléphone à côté de moi, je prends dans la main, et par WhatsApp, je regarde les questions qu'elle m'a envoyées. À la fin, je peux répondre à tout le monde. Si j'avais pas ce bras droit, ça serait quasi impossible de faire quelque chose de fluide et d'avoir une expérience agréable. Et pour aller encore plus loin, si vraiment on n'a pas de sous, ça coûte pas forcément très cher hein, de payer quelqu'un à l'heure pour nous aider, mais on peut demander à sa petite sœur, à son conjoint, sa conjointe ou à la voisine d'à côté. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir de compétences techniques poussées pour faire ce travail-là. C'est vraiment épauler la personne pour se sentir plus serein et pouvoir vraiment se concentrer sur ce qu'on sait faire. C'est ultra, enfin moi, s'il y a un investissement, c'est vraiment celui-là sur lequel il faut aller.
Ouais, exactement.
Trop bien, on arrive à notre cinquième et dernière erreur. Et là, tu m'en as parlé un tout petit peu en off avant qu'on démarre. Ça m'a vachement intriguée, tu me parles de sous-estimer l'importance du préchauffage de l'audience. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Alors, souvent, mes clients vont se dire « Tiens, j'ai vu qu'un tel faisait une masterclass, je vais faire pareil, ça vend. » Et c'est ça qui va m'aider à vendre. Si vous n'avez pas une audience ou une présence en ligne déjà bien développée toute l'année, ou vous partagez de la valeur toute l'année, il va falloir faire un petit travail 1 à 3 mois en amont de votre webinar. Ça va dépendre de votre offre. Plus votre offre est d'ampleur, imaginons que vous vendez une académie à 2000, 3000 euros, plus ce travail de préchauffage va devoir se faire en amont et avec intensité. Quand je dis travail de préchauffage de l'audience, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a une théorie qui dit que sur votre marché, vous avez un pourcentage de l'audience qui est prête à acheter maintenant, mais ce pourcentage, il est très petit. En termes d'échelle de grandeur, ça donne 3% du marché qui est prêt à acheter maintenant. Mais dans les 97% restants, vous avez des prospects qui sont inconscients de leurs besoins, inconscients de leurs problèmes, et des prospects qui sont peut-être conscients de ce problème-là, mais inconscients que vous êtes la bonne personne pour apporter une solution à ce besoin. Et du coup, ces prospects-là, il va falloir les éduquer. Sinon, vous allez faire partie des 3% du marché qui se battent uniquement pour des grains de sable, donc là où il y a le plus de concurrence. Pour assurer ça, ce que vous allez faire, c'est du coup parler au niveau de conscience différent de votre prospect. Par exemple, un prospect qui n'est pas conscient de son problème, il va falloir l'éduquer là-dessus. Imaginons que vous vendez, des bouteilles d'eau réutilisable avec des propriétés pour le bien-être, etc. Peut-être que votre prospect n'est pas conscient qu'il est en manque d'hydratation, qu'il est déshydraté. Il va juste savoir qu'il dort mal en ce moment. Et vous allez essayer de connecter le fait qu'il dorme mal avec le fait qu'il soit déshydraté. C'est ça les niveaux de conscience. Je pense que ça commence à devenir un petit peu technique et un petit peu trop théorique. Mais c'est ce que vous devez garder en tête.
Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. C'est qu'effectivement, moi, j'aime beaucoup cet élément, tu vois, niveau de conscience. Cet élément que tu expliques, tu dis, y a en gros sur un marché, alors c'est des grosses masses, mais c'est à peu près ça, tu as 2-3% du marché qui est prêt à acheter maintenant ta solution et la solution de tes concurrents aussi. Ce qui fait que tout le monde se bat sur 2-3% du marché. La concurrence est ultra tendue là-dessus. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est y a ces 2-3%, mais il y a plein d'autres gens qui seraient prêts à acheter, mais qui ne savent pas qu'ils ont besoin de ça. Et donc, eux, ils ont besoin d'éducation. Et ce que tu dis, c'est si on travaille en amont de cette masterclass pour éduquer les gens et leur faire comprendre que s'il dort mal, c'est parce qu'il est mal hydraté, peut-être qu'il va comprendre qu'il a besoin de mieux s'hydrater et d'acheter la bouteille d'eau que tu vends. Donc, le fait de travailler sur la compréhension du besoin de la personne, de faire en sorte que les personnes prennent conscience qu'ils ont besoin de travailler avec toi, parce qu'en fait, c'est ça, c'est ce que moi, j'appelle le pré-lancement, eh bien, ça te permet, un, de grossir la quantité de personnes à qui tu parles, ta cible finalement, et deux, de parler à une cible à laquelle ta concurrence ne parle pas. Donc c'est tout bénef, tu vas très probablement avoir beaucoup plus de facilité à vendre à ces personnes-là qu'aux 2-3% à qui finalement tous les autres vendent aussi et qui certes sont prêts, mais tout le monde est dessus. Donc ça, je trouve que c'est un conseil vraiment super super intéressant que tu nous donnes. C'est en fait une masterclass, ça se travaille longtemps à l'avance.
C'est ça, exactement. J'ai parfois des personnes qui vont venir vouloir travailler avec moi. Ils me disent, je veux faire une masterclass dans 3 semaines. Je leur pose deux, trois questions et là, tout de suite, je sais que ça va pas être possible. Je ne vais pas leur proposer quelque chose parce que je sais que cette personne ne va pas atteindre ses objectifs. Sauf que du coup, cette personne-là n'est pas consciente qu'elle doit faire tout ça et je dois faire ce travail d'éducation moi-même en amont. En faisant ce travail d'éducation de votre côté, vous allez, un, augmenter la taille de votre audience, deux, augmenter le niveau de conscience et le niveau de confiance que cette audience aura en vous. Et petit à petit, plus vous allez vous rapprocher du webinaire, plus vous allez augmenter votre chance de vendre parce que si vous faites ce travail de niveau de conscience avec votre cible pendant 3 mois, voire plus, vous allez petit à petit commencer à passer à un niveau où vous êtes le top of mind, la personne à laquelle ils vont penser lorsqu'ils seront prêts à l'achat, plutôt qu'un concurrent.
Exactement, c'est l'expert, la personne vers qui on va aller sur ce sujet précis. Et là, évidemment, on a un niveau de confiance qui est super important. Il n'y a rien de plus important que la confiance dans la vente. Si on n'a pas confiance, ce qui est sûr, c'est qu'on n'achètera pas. Donc, ultra, ultra pertinent comme conseil. Je vais essayer, Kevin, de résumer ce que tu nous as dit. Tu nous as donné plein, plein d'infos sur comment faire pour ne pas se planter quand on veut organiser une masterclass. Tu nous dis, d'abord, il y a deux prérequis pour aller travailler la masterclass. Le premier, c'est d'avoir un minimum travaillé son audience. Et le deuxième, c'est d'avoir une offre qui est validée. Tu nous dis une offre validée, ben c'est une offre que les gens achètent. Aussi simple que ça. Pas notre sœur, pas notre voisine, des gens qu'on ne connaît pas qui achètent notre offre. Si on a ça, ok, go, on peut aller sur une masterclass. Les grosses erreurs à éviter. La première erreur, c'est de ne pas assez communiquer sur sa masterclass. On a tendance à avoir peur de lasser l'audience. Ben non, en fait, ils ne nous entendent pas forcément. Et surtout, on peut communiquer régulièrement et communiquer de façon différente. Donc, prendre différents angles. Ce que tu nous dis, c'est on va communiquer une semaine, 10 jours avant la masterclass. Et on peut communiquer avec, par exemple, un post par jour et 5 à 7 emails dessus qui vont tourner. Mais on va prendre les choses sur des angles différents. Deuxième erreur que nous dit, c'est eh ben, de pas assez vendre parce que ben, on a souvent peur d'être vu comme un vendeur de tapis et que ça, ben, ça nous fait un petit peu peur. On n'aime pas, on n'est pas forcément à l'aise avec la vente. Ce que tu nous dis, c'est d'abord se rassurer soi-même et se dire ben, c'est OK de vendre parce que finalement, on a donné de la valeur avant. C'est un peu le principe de la masterclass. On donne avant de demander. Donc, on a déjà donné de la valeur, donc c'est OK de vendre. Et puis, c'est un de tes clients t'avait donné ce conseil, il est super pertinent. C'est si toi, tu es convaincu que tu rends service à tes clients lorsqu'ils prennent ton produit, ton service, eh ben c'est beaucoup plus facile de vendre. Et évidemment, comme on va, c'est un prérequis, on va venir travailler de la qualité, bien évidemment que tu apportes de la valeur avec ton produit, ton service. Donc, ça n'est pas un problème que de vendre. Ce que tu nous dis aussi, c'est attention, hein, il faut faire vraiment en sorte de donner une raison à la personne d'agir, de prendre une décision, parce que c'est difficile de prendre une décision d'achat. Donc, ben, il faut vendre, parce que c'est donner les clés finalement à son audience pour prendre une décision. La décision, soit de travailler avec toi, soit de ne pas travailler avec toi, mais en tout cas, c'est une prise de décision. Troisième grosse erreur, c'est de trop enseigner, de trop donner et surtout de donner l'impression que bah, c'est bon, on a toutes les clés, on peut faire tout seul, on n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est bien évidemment faux parce que bah, quand on est dans la formation, quand on est dans le SaaS, on le sait, hein, c'est pas parce que on a les grands éléments qu'on va réussir à faire. Il y a une différence entre la théorie et le fait de passer à l'action. C'est ça qu'il faut aller chercher en allant plus loin. Donc attention à ne pas laisser entendre à son audience qu'elle peut faire toute seule. Quatrième grosse erreur, c'est de lésiner sur l'à côté, sur les outils, de ne pas prendre le bon outil de masterclass, et puis lésiner sur les gens qui vont t'accompagner, et notamment le fait d'avoir un bras droit comme ma Coralie Roy qui va pouvoir eh ben, t'aider dans la masterclass pour rendre l'expérience fluide, parce qu'encore une fois, la masterclass, c'est une expérience. Et puis, cinquième grosse erreur, c'est de ne pas penser à travailler en amont de la masterclass pour éduquer notre audience et en fait, ouvrir nos clients, non pas aux seuls 2-3% de gens qui sont déjà prêts à acheter, mais à toutes ces personnes qui ne savaient pas qu'ils avaient besoin de notre produit, mais qui en réalité ont besoin de ce produit. Donc travailler sur l'éducation, on dit l'éducation en marketing, l'éducation de nos clients, c'est ultra important. Je reprends ma respiration, j'ai essayé de résumer en 3 minutes ce que tu nous as dit, Kevin. Est-ce que ça te convient comme résumé ou est-ce que tu as un élément que tu souhaitais ajouter ?
C'est un très bon résumé, c'était très assez synthétique et droit au but, donc c'est top.
Eh ben écoute, trop trop bien. Kevin, si on veut aller plus loin, si on veut demain mettre en place sa masterclass, si on a des questions encore qu'on se pose sur sa masterclass, si on veut discuter avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, Kevin, dis-moi.
Alors, dans un premier temps, si vous voulez, je peux vous donner un modèle de page qui vous assurera 50% de taux d'inscription sur du trafic organique et qui permet d'assurer les inscriptions pour mes clients. Je pense qu'on pourra vous mettre le lien en description.
Bien sûr.
Et ensuite, vous pourrez me retrouver sur YouTube où je vais mettre l'accent pour ma communication et où je partage du coup des études de cas de leaders de leur marché qui font des masterclass à 6 chiffres, voire plus, et de clients.
Eh ben génial, et je mettrai bien sûr tous les éléments dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à cliquer, à aller faire un petit coucou à Kevin, à lui poser vos questions si vous en avez, parce que je vous le dis, moi j'utilise les masterclass depuis plus de 3 ans maintenant, et c'est véritablement une très très bonne façon de rentrer en contact avec son audience, de créer de la valeur déjà, et après d'aller plus loin avec une portion de l'audience, de leur vendre ce que vous avez à leur proposer. Et c'est véritablement une stratégie qui fonctionne bien et qui en plus est super agréable quand on apprend à le faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Kevin, mais moi je trouve ça super sympa de pouvoir échanger comme ça, un peu en direct avec les gens. Donc il faut sauter dessus, il ne faut pas hésiter.
C'est ça. Ça peut être intimidant au début, mais la clé, c'est l'entraînement. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner en privé avant de faire la masterclass. Et si jamais vous avez peur de vous rater, dites-vous que c'est juste une étape d'apprentissage et que plus vous vous ratez, plus vous apprenez, plus vous devenez meilleur. C'est le seul secret, entre guillemets.
Génial, j'adore. Plus vous ratez, plus vous apprenez et meilleur vous devenez. Merci beaucoup, Kevin, pour tous tes conseils. T'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing.
Merci Estelle encore une fois pour cet épisode et à bientôt.
Un grand merci Kevin de nous avoir donné tes conseils pour construire notre webinaire et surtout pour éviter les plus gros pièges du webinaire parce que oui, cette stratégie est une stratégie ultra puissante si elle est bien construite. J'espère que vous êtes en train de vous dire « Non mais attends, ok, j'ai mis les bases de mon business, je fais plein de choses, c'est quoi la suite ?» Peut-être que vous êtes en train de vous demander « Mais comment renouveler un petit peu mes stratégies ?» Bien, le webinaire, c'est une option à véritablement regarder, à checker, tester. Là, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Kevin vous l'a dit, d'un point de vue financier, on parle de 100 euros. Allez-y, testez le webinaire, vous allez voir, ça peut changer radicalement les choses. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, je vous invite à aller un cran plus loin avec moi et à rejoindre ma newsletter. Sur ma newsletter, eh bien, je vous parle des épisodes du podcast du marketing, bien sûr. Je vous donne tous mes meilleurs conseils, tous mes bons plans. Je vous propose aussi tous mes cadeaux bonus directement dans votre boîte mail. Et puis, je vous parle un petit peu aussi de ma vie perso, ou en tout cas de ma vie perso d'entrepreneur, les coulisses du podcast du marketing. Je le fais très peu sur les réseaux sociaux parce que j'aime pas trop les réseaux sociaux. Je le fait avec mes proches, et mes proches, c'est les gens qui sont sur la newsletter. Alors mes proches, on n'est pas loin de 10 000, donc on est proches, mais on est nombreux. Rejoignez-nous pour le faire, c'est très très simple, il suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.